France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Pour cette étape, nous allons poursuivre les chroniques solidaires inaugurées à la rentrée par Jean-Louis Laville, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier paru aux éditions d'Esclée de Brouwer s'intitule « Réinventer l'association ». Pour analyser ce regain d'intérêt pour le monde associatif et sa dimension transformatrice. Jean-Louis ouvrira tout à l'heure une rubrique sur les solidarités. Mais pour l'instant, nous demeurons dans notre département de la semaine, le Val-d'Oise, pour souligner une autre source d'intérêt, les ludothèques. Ben oui, les ludothèques, dont une partie organisée en réseau national au titre des ludothèques mobiles.
Carnet de campagne. Le journal. Des solutions.
Michel Thomas, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Michel, quand on est président comme vous de la ludothèque mobile Petit Renard et qu'on est également président de l'association des ludothèques françaises d'Île-de-France, on a l'esprit joueur ?
Ah oui, on est tombé dedans quand on était petit. Enfin, oui. J'ai toujours été joueur depuis tout petit. Donc, c'était pas mon métier d'être ludothécaire. Hein. D'ailleurs, je le suis pas, mais j'ai monté ça parce que je vis avec une ludothécaire et qui, à un moment donné, avait perdu un emploi salarié de ludothécaire. On a dit, bon, on monte notre association. Voilà. Et on a monté Petit Renard, Joue et Crée. Et avec plusieurs autres ludothèques, on a décidé de remonter l'association régionale, une branche régionale de l'association nationale des ludothèques françaises.
Ouais.
Et du coup, comme je suis quelqu'un qui connaît bien les aspects un peu administratifs et financiers, et ben, j'avais rédigé les statuts, puis ils m'ont dit faut que tu sois président.
Bon, bah, très bien.
Comment on se retrouve comme ça.
Il faut dépoussiérer ou en tout cas essayer de passer outre des idées un peu arrêtées sur le jeu, considérant que le jeu est destiné aux enfants, que pour certaines personnes, participer financièrement à une action auprès des ludothèques, c'est un petit peu décalé par rapport à quelque chose qui reste purement ludique, sans gain, et il y a encore des a priori à ce sujet. Et vous, vous prouvez que, d'abord par le système des ludothèques mobiles. Évidemment, on touche des personnes du milieu rural ou éloignées des centres de décision. Mais surtout, on refabrique du lien et c'est important, ça.
Ah ben oui, c'est l'important. C'est que le jeu, c'est un générateur de liens par essence. Enfin, on peut jouer tout seul. Il y a quelques jeux un peu d'autonomie. Mais en général, et surtout ce qu'on propose avec ludothèque, c'est un jeu à plusieurs. Où, au fond, les personnes vont pouvoir se retrouver en dehors de leurs soucis quotidiens, parce que vous rentrez dans un monde qui est l'espace de votre jeu, et vous vous retrouvez avec une équipe hein, qui va travailler avec vous, ou qui va travailler contre vous, mais vous allez vous échanger ensemble, et puis il y a des jeux coopératifs où là, on doit tous réussir à trouver une solution, et des jeux aussi d'échange, il y a des jeux qui, comme Feelings, par exemple, où on va essayer de deviner en face d'un événement comme un élève s'est fait agresser à la sortie du collège, comment je réagis.
Oui.
C'est un jeu, en fait. Enfin, c'est sous une forme de jeu. On pourrait le faire, évidemment, sous une forme non-jeu, hein, mais quand on le fait sous une forme de jeu, les gens s'expriment, parce qu'il n'y a pas d'enjeu dans le jeu, si je peux dire.
Oui, exactement. Et, alors, les ludothèques mobiles sont assez nombreuses maintenant pour se regrouper dans une association nationale.
Oui.
Les ludos sur roues, où on échange les points de vue, les méthodes, les axes, comprendre comment on gagne de nouveaux publics. Enfin, tout cela fait partie des intentions de cette association.
Oui, absolument. Oui. L'idée des ludos sur roues, c'est que par rapport aux ludothèques fixes, on a un certain nombre de problématiques qui sont particulières, les unes liées au fait qu'on passe notre temps à déménager, et donc ça nous crée plein d'organisations, y compris de santé, hein, de nous-mêmes. Et puis évidemment, parce qu'on change tout le temps de public, on n'a pas tout le temps le même public. Donc c'est toute une façon de travailler qui est très différente de la ludothèque fixe.
Vous, Michel, vous possédez un lieu de stockage pour l'instant,
oui,
avec plus de 2000 références de jeux, sauf que vous avez un loyer qui dépasse un petit peu vos moyens, on va le dire.
Absolument.
Et puis en plus de ça, vous avez pris l'eau, c'est ça ?
Oui, absolument. Ça, c'est tout récent. On a de l'ordre de 160 boîtes de jeux qui ont été complètement détrempées, dont une bonne part sont pas récupérables.
Donc aujourd'hui, vous cherchez un local ?
Oui. On chercherait un local qui soit plus sûr que ce hangar qu'on pensait être une bonne solution, parce que, pour rien vous cacher, avant, on louait un deux pièces au premier étage, mais c'était pas pratique, parce que, comme je vous dis, on passe notre temps à déménager. Donc,
Ouais. Alors, un lieu de stockage adapté, gratuitement pour une somme modique, ou alors versement d'une aide régulière pour régler le loyer, voilà. Ça on peut trouver. Sur quel périmètre vous cherchez ce local ?
Ah ben actuellement, on le cherche toujours dans cette région de Vétheuil, puisque on se plaît bien, nous, par là, dans la région autour de Mantes-la-Jolie, en fait.
Hein. Oui.
Ou bien, si, évidemment, on le trouvait dans la Marne, là où est notre autre lieu d'habitation, où un jour, peut-être, qu'on se rangera définitivement.
Oui. Bon, alors, je passe le message du côté de Vétheuil, si vous disposez d'un local suffisamment grand pour accueillir...
C'est la communauté de communes Vexin-Val-de-Seine, là-bas. Ouais,
d'accord. Alors, j'espère qu'elle va entendre le message. C'est important. Vous faites partie d'un réseau national. On parle des bienfaits de ces ludothèques et de ce qu'elles apportent dans les relations parents-enfants, entre voisins aussi, en création d'un lien social important. On va vous laisser à nos pages d'émission un contact pour appeler Michel et lui proposer un local. Voilà, tout simplement. Et j'espère que vous allez le trouver rapidement. Merci Michel.
Ben, merci beaucoup Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Les villes ont besoin de la campagne pour bien se nourrir, c'est bien connu. Dans le Val d'Oise, un correspondant des carnets témoigne, merci à lui, de l'indispensable livraison hebdomadaire des paniers Bio-Cergy. Panier Bio-Cergy est aussi le nom de la société de production maraîchère et fruitière située entre le bois de Cergy et l'Oise. Ici, on cultive pas moins de 140 variétés de légumes, de fruits et de fruits rouges sur une superficie de 12 hectares, dont 9 hectares en plein champ, le reste se partageant entre les 33 serres du domaine et les deux vergers. Labellisée AB, agriculture biologique depuis 2009, cette production a obtenu en 2013 le label Déméter en biodynamie. Difficile d'être maraîcher, s'interrogent Valérie et Alain, créateurs des paniers bio. Réponse non, à condition d'y mettre les moyens, soit pas moins d'une dizaine de personnes pour les grandes phases de récolte et 3 personnes pour assurer la préparation des paniers chaque semaine. Tout est fait main, sans autre adjuvant que le concours d'une dame nature parfois capricieuse, lit-on sur le site de panierbiocergy.com pour l'adresse, allez voir. Vous allez certainement y trouver votre bonheur. Parfois, les producteurs proviennent d'un autre milieu que celui de l'agriculture. C'est le cas pour Sébastien et Claire. Sébastien, pompier, Claire, ingénieur. Cela ne les a pas empêchés d'acheter une vieille maison et les terrains tenants pour faire du maraîchage et de l'élevage, avec aussi un volet pédagogique. Le couple est installé dans sa ferme du Mouton Noir à Chaussy, au cœur du Vexin. Vous allez trouver à nos pages d'émission le lien avec la page Facebook du Mouton Noir de Chaussy. Nouvelle chronique solidaire avec Jean-Louis Laville. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Philippe Bertrand.
Nouvelle chronique solidaire avec vous. Merci de revenir régulièrement nous éclairer sur un domaine que vous connaissez bien. Vous l'enseignez d'abord au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous êtes sociologue, vous êtes auteur de très très nombreux ouvrages. Ce sont des bibles, je le signale, enfin des bibles absolument laïques, mais qui vous apprendront tout sur le domaine très large, très vaste, en pleine effervescence de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, vous nous proposez de parler de la solidarité à différencier de la charité.
Voilà. Alors, si nous sommes dans des chroniques solidaires, allons-y avec la solidarité. La solidarité, on le sait, c'est très ancien. Hein, mais je crois que ce qui s'est passé dans la démocratie moderne, c'est qu'il y a eu l'invention d'une nouvelle forme de solidarité. Hein, c'est ce que nous dit Leroux en 1840, qui introduit en français philosophique moderne cette notion de solidarité. Il dit, et c'est la différence avec la charité, que la solidarité, pour lui, ce qui succède à la charité en démocratie. Parce que la charité supposait une inégalité entre celui qui donne et celui qui reçoit. Pour lui, la solidarité, c'est ce qui est le fruit d'une action commune de gens qui sont à la fois libres de s'engager ou non dans cette action et égaux entre eux. Et donc, il voit un nouveau mode d'action qui est rendu possible par la démocratie. Et ça, ça va être investi très fortement par tout un ensemble de gens qui vont organiser ces associations solidaires qui sont symptomatiques du premier 19e siècle jusqu'en 1848. Et après, c'est vrai qu'il va y avoir un reflux, parce qu'à la fois, il y a cette répression, on connaît ce qui s'est passé en 1848, mais il y a aussi toute une invalidation au niveau des idées. C'est vrai que cet associationnisme solidaire qui a régné pendant la première partie du 19e siècle, il va être attaqué à la fois par le libéralisme, qui va dire « ceci n'est pas important, c'était des tentatives un peu naïves, il faut dépasser cela », et aussi par une certaine orientation du mouvement ouvrier qui, à partir de la Deuxième Internationale, va être beaucoup beaucoup plus centrée sur la prise du pouvoir d'État que sur l'organisation de collectifs autogouvernés. Et donc, on va avoir une présentation d'une forme euphémisée de solidarité, qui est la solidarité philanthropique. Et on voit bien que la solidarité philanthropique, c'est une solidarité qui ne s'adresse plus à tout le monde, qui est réservée finalement au traitement de la pauvreté. On voit toute la différence entre solidarité démocratique, où c'est la lutte contre les inégalités, l'instauration d'une plus grande égalité, et solidarité philanthropique, où c'est la lutte contre la pauvreté, avec évidemment la question subsidiaire qui vient tout de suite, c'est est-ce que tous les pauvres méritent d'être aidés? Est-ce qu'il n'y a pas des pauvres qui se conduisent mal et qu'il ne faudrait pas aider? Donc on a cette tension.
Les riches sont-ils solidaires? Non.
Voilà, on demande
entre eux. Est-ce qu'il y a une solidarité de riches?
Probablement ça, la solidarité de riches. Je pense qu'on a des exemples historiques assez probants. La solidarité des pauvres existe également, mais en tout cas, on peut penser la solidarité selon deux modalités. Et je pense que cette tension entre solidarité démocratique et philanthropique, elle est encore présente aujourd'hui dans le monde associatif.
Dès qu'on la fait entrer dans le champ de l'économie, la solidarité ne perd-elle pas son sens?
C'est là où quand même la solidarité, il faut retrouver ses racines, parce que c'est des racines fortes. Hein. Ce mot solidarité dans les langues latines, par exemple, il a un rôle pour désigner des formes de relations auxquelles nous tenons. C'est aussi l'idée, à travers la solidarité, que la démocratie, ce n'est pas simplement la démocratie représentative, que ça peut concerner tous les citoyens, et que l'entreprise moderne peut aussi être organisée non seulement à partir de l'intérêt, mais à partir de cette solidarité, à partir de gens qui, par exemple, ayant le même métier, s'organisent autour du travail dont ils connaissent les savoir-faire. Et ça, c'est véritablement une racine que l'on a parfois oubliée en confondant justement la solidarité un peu avec l'assistance. Or, la solidarité a un rôle beaucoup plus structurant sur le projet démocratique.
Si on fait une traduction moderne, Jean-Louis Laville, de la solidarité, on peut l'associer au commun. Est-ce qu'on peut l'associer à la mutualisation?
Absolument, c'est ça que je voulais mentionner à travers, par exemple, l'ensemble des expériences que l'on connaît aujourd'hui en Amérique latine, par exemple ce que l'on appelle les luttes contre l'extractivisme, l'agroécologie, des territoires aussi avec le mouvement des sans-terres au Brésil ou avec le mouvement zapatiste au Chiapas, qui ont été des territoires qui se sont organisés autour de la solidarité. Donc il y a une actualité du principe de solidarité démocratique qui est revenue. Et je crois que la difficulté que nous vivons, c'est qu'on a cru à partir de la fin du 19e siècle que la solidarité pouvait être organisée intégralement par l'État. Et c'est sûr que ce fut important parce que l'État a permis que la solidarité repose sur la loi, repose sur la redistribution et qu'on soit plus obligé de tendre la sébille pour bénéficier de la philanthropie, du patronage, du paternalisme. Mais il faut aujourd'hui, je crois, qu'on retrouve les deux jambes de la solidarité démocratique, c'est-à-dire à la fois l'auto-organisation des citoyens et puis cette capacité de redistribution par les pouvoirs publics. Et que l'on sache que si l'on veut que la solidarité démocratique soit importante dans le 21e siècle, il faut qu'elle puisse marcher sur ses deux jambes.
C'était la chronique solidaire de Jean-Louis Laville. Merci Jean-Louis.